Chapitre 5 2019 Combien de temps ai-je dormi? Combien de temps ai-je passé, perdu dans mes pensées, la tête appuyée contre le hublot, envolé, 20 ans plus tôt? Charlotte me tapote doucement l'épaule. Nati, fais-tu déjeuner? Un instant, je crois qu'on vient me le servir au lit, avant de poser mes yeux sur les dizaines de plateaux empilés sur les chariots. Au boulot. Rangée 18, place D. Un garçon d'une trentaine d'années dort recroquevillé, la tête posée sur les genoux de la fille du siège voisin. Sans casquette ni bouclette, juste un crâne rasé, dont son amoureuse caresse le duvet. Personne ne porte de casquette dans l'Airbus. Personne ne ressemble à Iliane. Personne ne porte son prénom. Iliane n'est pas dans l'avion. Tout en continuant de distribuer les plateaux, je maudis dans ma tête ce dieu farceur qui s'est amusé à semer toutes ces coïncidences, mais ne m'a pas accordé la seule dont j'aurais vraiment rêvé. J'ai quasiment servi la moitié des rangées, 1 à 29, quand Georges Paul s'approche pour prendre le relais. Je vais terminer. Va te reposer, Nati. J'ai l'air à ce point chamboulé. Je m'éloigne en observant le grand steward au geste racé. Un petit garçon d'une dizaine d'années le tire par la manche alors qu'il sert le café. Visiblement, il a compris le jeu.
On est où, monsieur?
Au large des petites îles de la Madeleine, mon grand, répond Georges Paul sans cesser de remplir les gobelets. À 100 kilomètres au nord de l'île du Prince-Édouard. Le garçon a l'air épaté. Il redemandera la même chose à Georges Paul dans un quart d'heure. Lui ou un autre gamin. C'est le jeu préféré du steward, un don qu'il a cultivé, vol après vol. Georges Paul s'est entraîné à améliorer son sens de l'orientation, tout en se construisant une sorte d'horloge mentale, qui, associé à l'itinéraire, à la durée du parcours, lui permet presque en temps réel de savoir où l'avion se trouve. Bien entendu, Georges Paul réactualise de temps en temps ses données en fonction du vent ou des turbulences. Mais généralement, consulter la vitesse de l'avion lui suffit pour le localiser. Le petit tour de magie de Georges Paul Marie. Georges Paul Senior, comme des petits malins l'ont baptisé, et que tous les navigants, même ceux qui n'ont jamais volé avec lui, connaissent sous le fameux nom de GPS. Assise à l'arrière de l'avion, je ferme les yeux. Flo est bloqué à l'avant avec ses rockstars de la Old Wave. Je suis passé la voir une fois ou deux. Jean-Max Balin n'a pas manqué de me claquer la bise au passage. « Toujours aussi jolie, Nati. Ça te va bien, la mèche grise. Jamais tu ne vieillis. » Baratineur, va. À 53 ans, même si je suis restée légère comme une plume, j'ai conscience des cratères qui se sont creusés autour de mes yeux de lune, des rides que mon sourire étire. Une pomme, pas encore toute fripée, mais plus celle que l'on croque en premier. La fatigue me tombe d'un coup sur les épaules. Ma tête pèse 1 tonne. Je voudrais coudre mes yeux pour que plus jamais ils ne s'ouvrent. Je voudrais clouer mes pensées pour qu'elles ne tournent plus en rond autour de ces coïncidences étranges sans leur trouver aucune explication. Je voudrais faire comme d'habitude, m'installer à côté d'une collègue une fois mon service terminé et parler de rien, de tout. Charlotte, comme si elle avait lu dans mes pensées, vient près de moi. Elle vérifie que nous sommes seuls et se penche vers moi.
« Il faut que je te parle, Nathalie. »
Charlotte, c'est ma protégée. C'est la première fois que nous naviguons ensemble, mais nous avons passé 2 fois 3 jours de formation ensemble à Roissy l'année dernière. Pendant ces interminables journées, occupées à se coltiner les toutes nouvelles consignes de sécurité inventées par un type qui n'a jamais volé, à répondre à des tests surréalistes de santé mentale, avez-vous le sentiment d'avoir une vie familiale normale? Préférez-vous dormir, visiter la ville ou boire pendant les escales? À jouer à toutes sortes de jeux de rôle débiles allant de la crise d'hystérie à la simulation de détournement d'avion, Charlotte a davantage écouté mes conseils que ceux des formateurs. Charlotte a tout juste 23 ans, est mignonne comme un cœur et n'a pas encore perdu cette capacité d'émerveillement devant le nom exotique des destinations. Tegucigalpa, Valparaiso, Samarcande. Charlotte, c'est moi il y a 30 ans. C'est ma petite pomme préférée dans le panier. Charlotte, je l'adore. Patouche, sinon, je mords.
Faut que je t'avoue un truc, Nathalie. Mais surtout, surtout, tu ne répètes rien.
Ça a l'air grave. Je hoche la tête. Elle peut avoir confiance en moi.
Je suis amoureuse, Nathalie.
Ah, ce n'est pas si grave. Et lui, il est amoureux de toi?
J'espère.
Elle hésite.
Je crois, oui.
Je n'aime pas son hésitation. Il est marié?
Non, non.
Elle a répondu trop vite. Il y a autre chose qui cloche.
Il est plus vieux que toi? Un peu.
Ma pauvre Charlotte a l'air toute penaude. J'ai l'impression qu'elle veut se blottir dans mes bras, exactement comme j'aimerais que Margot le fasse quand elle a un chagrin d'amour. Comme Laura ne l'a jamais fait, elle non plus. A-t-elle d'ailleurs déjà connu un chagrin d'amour, ma Laura, elle qui a rencontré son futur gendarme avant même d'avoir obtenu son brevet des collèges? Je me contente de prendre les mains de Charlotte et de les serrer. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, ma belle?
Tu le connais?
Ah. Immédiatement, je pense à Georges Paul. Il est grand, élégant, intelligent, beau si on aime le genre qui se regarde un peu trop dans le rétro, et sans doute célibataire, car je ne vois pas quelle fille pourrait vivre jour et nuit avec un GPS qu'on ne peut jamais débrancher. J'en suis encore à faire défiler dans ma tête un casting d'autres Stewart, parmi les plus avantageux partis, quand Charlotte se confie avec une voix de petite souris.
C'est Jean-Max. Enfin, je veux dire, c'est le commandant Balin.
Charlotte a été appelée à l'avant de l'avion. Des enfants malades à rassurer. J'ai seulement eu le temps de lui demander comment c'est arrivé.
Comme ça,
m'a-t-elle répondu.
Par hasard.
Puis, elle a précisé, non, pas par hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est Paul Éluard qui disait ça.
Paul Éluard,
rien que ça. Je n'ai rien ajouté. J'ai hésité, mais je n'ai pas eu la force de commenter. Pauvre petite Charlotte. La première chose qu'on devrait apprendre aux jeunes gazelles, c'est la réputation des étalons en galons. En formation, on devrait projeter sur les murs un diaporama des tableaux de chasse des commandants pour prévenir les petites nouvelles. Que pourrais-je dire à Charlotte? Que Jean-Max est le plus grand baiseur de toute l'aéroflotte? Qu'il traîne cette réputation depuis 30 ans? Que je pensais qu'il s'était un peu calmé maintenant, mais visiblement non. Il est seulement plus discret. Je réfléchis. Je n'ai pas envie de récupérer ma Charlotte à la petite cuillère. Je calcule. Décidément, c'est la journée. Je n'ai pas fait autant de maths depuis mon bac. Balin est plus vieux que Charlotte de 36 ans. 36 ans tout de même, ma chérie. J'anticipe. Nous allons passer 24 heures ensemble à Montréal avec Flo, Georges Paul, Emmanuel, Jean-Max et Charlotte. Je vais bien trouver un moyen d'ouvrir les yeux à ma petite sotte. Même sans faire appel aux autres. Hors de question de trahir le secret révélé par ma protégée. Encore moins à Florence, qui a toujours détesté le commandant Balin. Je relativise. Au moins, cette révélation a sorti de ma tête, pendant quelques instants, les fantômes qui la hantent. Je me surprends à les appréhender avec davantage de détachement. Si j'y repense, cette somme de coïncidences n'a rien d'impossible au fond. La preuve, ces choses m'arrivent. Ce qui est impossible, c'est qu'elles soient liées par autre chose que le hasard. Quoi qu'en pense Paul Éluard. Rassurée sur mon sort, soucieuse de celui de Charlotte entre les griffes de son loup désert, je ressens avec soulagement les légères turbulences qui secouent l'avion. L'occasion de me dégourdir les jambes. Je m'avance entre les rangées pour rassurer les passagers. Je sais d'expérience que de minuscules secousses peuvent, pour les plus craintifs des voyageurs, se transformer en terrifiantes frousses. J'apaise les parents d'un sourire. J'invite les enfants à rester tranquilles. Je vérifie les ceintures. Je recommande de relever les tablettes. Quelques secousses supplémentaires provoquent quelques cris. Quelques rires aussi. Rien de bien méchant. Devant moi, un passager tétanisé s'accroche de la main droite à l'accoudoir et de la gauche à sa femme. Une quarantaine d'années, peau moutarde, cheveux pétards noirs et moustache fil de réglisse. Étranger. Malais, je dirais. Il s'exprime en anglais. Il baragouine des mots, comme une prière, tout en semblant hésiter entre arracher l'accoudoir ou le bras de sa femme. Je m'approche. Il ne m'aperçoit même pas, les yeux fermés, la bouche ouverte, continuant de réciter son chapelet censé le sauver. Sa femme écoute, tout en le caressant. Je comprends que la prière de son mari s'adresse à elle. Je me penche, pour proposer de l'eau, un bonbon, un calmant. Et à ce moment précis, j'entends. When our islands are drowned, when our wings are down. Un soubresaut de l'Airbus que personne à part moi ne perçoit m'envoie valser deux sièges plus loin. Je titube. Des passagers s'inquiètent pour moi. « Ça va, madame ?» Je ne réponds pas. Je n'en ai pas la force. Je n'ai que celle de repasser en boucle les mots que je viens d'entendre dans la bouche de ce passager malais. Des mots que j'ai forcément mal entendus. « When our islands are drowned. » Que j'ai cru comprendre, que j'ai mal traduit. When our wings are down, transformés, déformés, quand nos îles seront noyées, quand nos ailes seront broyées. Est-ce que je deviens folle?
Ça va, Nati?
S'inquiète cette fois George Paul, arrivé près de moi en quelques enjambées. Oui, oui, JP. Non, pourtant. Non, ça ne va pas. Je suis folle. Ces mots prononcés en anglais par ce passager malais, ces mots sont les derniers qu'Iliane a prononcés il y a 20 ans. Les derniers qu'il m'a offerts. Ils sont mes mots. Ils sont nos mots. Personne d'autre que nous ne peut les connaître. Comment ce couple malais peut-il nous les avoir volés? George Paul m'aide à me redresser. Je tiens à peine sur mes jambes. Une sonnerie cogne dans ma tête, des lumières s'allument, une voix s'élève comme venue du ciel. Celle d'un ange? Un ange qui imite l'accent québécois.
Allô les chums, c'est votre commandant, j'espère que vous avez eu du fun pendant le vol. On attaque tout doucement notre descente vers Montréal. Pas besoin de vous abrier pour sortir, il y avait encore 30 cm de banc de neige hier, mais elle a tout fondu d'un coup. Vous pouvez quitter l'avion en brassière, on vous refilera des palmes et des tubas pour rejoindre l'aérogare. Faudra juste rester groupé, on signale des bandes de rorquals sur le tarmac.